Bonjour and welcome to our podcast series, Une Ville, Deux Réalités, a meeting between Anglos and Francos 50 years after the Official Languages Act. Ce projet a été lancé dans le but de donner aux deux groupes linguistiques la possibilité d'échanger et d'exprimer leur point de vue sur la vie quotidienne afin de mieux comprendre et apprécier la dualité linguistique de la ville de Kingston et les Mille Îles. This podcast is presented in both official languages.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Mon nom est Michèle Dubois, je suis la directrice générale de l'ACFO des Mille-Îles. J'aimerais remercier Patrimoine canadien sans qui le projet ne pourrait pas avoir lieu, c'est eux qui financent le projet. Alors je vous souhaite la bienvenue ce soir pour notre deuxième soirée de la série appelée « Une ville, deux réalités ». Ce soir, le thème portera sur la littérature et la poésie canadienne francophone et anglophone. My name is Michèle Dubois, and I'm the executive director of the ACFOMI, and I would like to thank Canadian Heritage for the funding of the project. I wish to welcome everybody to our second event of our series called One City, Two Realities. Tonight, we will talk about Canadian literature and poetry, anglophone and francophone. Je vais maintenant passer le micro à Madame Joanne Bédard, votre animatrice pour la soirée. Your host for the evening, Mrs. Joanne Bédard.
OK. Bonjour. Donc, bienvenue à tout le monde pour ce deuxième dialogue. Welcome, everybody. Alors, je me présente. Mon nom est Joanne Bédard, comme on vient de le dire, et j'enseigne la littérature française et francophone au département d'études françaises de l'Université Queen's depuis, je ne sais pas si je devrais dire la date, depuis 1989. Donc, ça fait longtemps. Ce soir, donc, je dirais facilitatrice pour ce que j'espère être un dialogue entre nos invités, un dialogue avec vous aussi, parce qu'il y aura une période de questions. Donc, I hope everybody will feel included. Even if everything won't be translated in both languages, that would be too long. So feel free at the end to ask questions in both languages and even during the presentation to ask for a clarification in the other language. That would be completely fine. So you can raise your hand, and if there's something you want someone to, you know, say in the other language, that would be, I would love that if people can, you know, do that. Or wait at the end for a question. It's fine too. So, je vous présente maintenant, sans plus tarder, nos deux écrivains. Donc, je vais le présenter dans leur langue, parce qu'ils vont parler aussi dans leur langue. Alors, Bianca Côté, qui est à côté de moi, est née à Montréal, où elle a obtenu une maîtrise en études littéraires, et elle a publié plusieurs livres, dont un récit, « Carnet d'une habituée » en 1998, et un livre de poésie en 2015, j'adore le titre, « Un mandala dans une benne à ordures ». Alors, j'en profite pour dire aussi que les livres sont disponibles ici, s'il y en a qui veulent les acheter et avoir un autographe en même temps. Bianca a travaillé plusieurs années dans le domaine de l'édition, éditrice, directrice de production, correctrice d'épreuves, rédactrice, et elle a aussi été agente de programme pour le Conseil des arts du Canada. Depuis 2008, elle enseigne le français langue seconde au Collège Militaire-Royal, d'où donc son rapport à Kingston. Eric Folsom is a Kingston poet who has long been active in the city's literary community. He worked for more than 20 years as a library assistant at the Kingston Frontenac Public Library, just here, okay? And helped edit the small literary magazines Next Exit and Quarry in the 80s and the 90s. He has published 4 books of poetry, mostly recently Le Loutre, a poetry narrative, and he has the book here for sale. This is just, you know, a little bit of publicity. Born in the United States, he came to Montreal in 1969 as a student at McGill, and he learned to love the complexity of Canada and has been a dual citizen since 1993. Donc, je voudrais maintenant, juste avant de donner la parole à mes invités, revenir un petit peu sur ce titre-là. Je suis un professeur de littérature. Il y a quelqu'un qui sait ici, là, qui se cache peut-être, qui a eu le plaisir ou le malheur de m'avoir comme professeur. Donc, je me suis dit, le titre, hein, j'ai « Une ville, deux écrivains, deux réalités, one city, two writers, two realities ». J'ai mis un point d'interrogation, OK? Je sais comme pourquoi j'ai mis un point d'interrogation. Parce que, en fait, ce qu'on va se poser un petit peu comme question aujourd'hui, c'est est-ce que vraiment il y a deux réalités? Hein? On peut dire oui, mais on peut dire aussi que, d'une certaine façon, être écrivain, c'est peut-être une seule réalité. Donc, c'est ce qu'on va explorer un peu. Donc, on va essayer un peu de voir autant les différences que les similitudes entre les deux écrivains. Bien sûr, chaque écrivain est unique, mais en parlant de leur parcours, en leur posant des questions, on va voir aussi comment on pourrait, en fait, établir justement un dialogue. J'ai aussi demandé aux écrivains de vous lire un petit peu de leur œuvre. Donc, il y aura un moment où je vais leur demander pour quelques minutes de lire. Comme ça, on aura aussi un petit avant-goût de leur texte. Alors, ma première question, et j'ai une petite montre ici juste pour essayer de tenir le temps. Parce que je voudrais aller jusqu'au bout et puis vous laisser du temps aussi pour les questions. Alors, Bianca, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous parler de questions très générales de ta carrière littéraire?
J'ai commencé à publier dans les revues, je crois que c'était en 1985, donc il y a à peine quelques années. Et c'était vraiment, au début, c'était plus dans des revues littéraires. Et j'ai continué aussi par la suite à collaborer avec différentes revues littéraires, principalement au Québec, mais aussi en France et une revue aussi bilingue au Canada qui je crois, n'existe plus, mais qui s'appelait Tessera. J'ai commencé comme ça. Et mon premier livre, qui s'appelle « La chienne d'amour », a été publié en 89. Et je l'ai envoyé à, je dirais, au moins 12 éditeurs. Et je recevais une lettre, non. Une autre lettre, non. Une autre lettre, non. Et je dois dire que c'était un peu frustrant. Parce que j'avais pas de rétroaction. C'était « cela ne convient pas à notre politique éditoriale », et etc., etc. Jusqu'à ce que je reçoive un appel d'un membre du comité de lecture d'une maison d'édition, la maison d'édition Triptyque, qui me dit « bien oui, on va le publier, toutefois, ce qu'on vous demanderait, c'est de couper le texte de moitié. Donc, on le publie, mais vous enlevez 50 % du texte. » Et il faut dire qu'à l'époque, les ordinateurs étaient vraiment très, très rares. Alors, moi, j'étais avec ma machine à écrire manuelle. Donc, la fonction « couper-coller » était vraiment une fonction « couper-coller » dans ma cuisine avec du ruban gommé. Et là, je retapais à l'ordinateur. J'ai fait ça quelques fois. Et bon, finalement, ça a donné la chienne d'amour. Et parallèlement à ça, avec cinq autres écrivaines, on a fait un collectif qui s'appelle La Maison des Clocks, qui a été publié par la même maison d'édition et qui était autour du thème des chambres, en différentes chambres. Ensuite, il y a eu Cher Hugo, Chère Catherine, qui a eu beaucoup. C'était beaucoup plus facile pour moi de le publier, peut-être parce que j'avais publié un premier livre, je ne sais pas. Mais là, j'avais le choix entre plusieurs éditeurs. Alors, c'était un très, très beau problème d'avoir le choix entre plusieurs éditeurs. Et je pourrais parler du processus d'écriture ultérieurement. Ensuite, j'ai publié la faux partage, qui faisait partie aussi d'un mémoire de maîtrise. Donc, j'avais fait à cette époque-là, en 94, je pense, un mémoire de maîtrise en recherche et création. Donc, il y avait un volet création qui était le roman et un volet recherche qui était comme un dossier d'accompagnement. Et ensuite, 3 ans plus tard, il y a eu Carnet d'une habituée. Ensuite, il y a eu un très, très, très grand et long silence, habité, mais quand même un silence. Donc, en 2015, j'ai publié un mandala dans une benne à ordures. J'avais continué à participer à des revues, mais disons que ça a été plus discret, une présence plus discrète.
OK. Merci beaucoup. Thank you. And I'm going to ask the same question to Eric, but I'm going to also add something to the question. Because that will, at the same time, I can summarize what Bianca was saying, but the beginning was not easy. Like, she was asked to cut 50% of her work, which is a lot. So, and you talked about, Bianca, how it was difficult to receive without any feedback. Refusal, like the publisher was saying, no, this is not for us, but without nothing more. So I would like you maybe to start to say, how was your beginning? And also then tell us. And she talked also about some silences, like saying that, you know, at times there could be a period for a writer where there's no book. There's something happening, as you said, Bianca, there's something, but it's not a publication. So maybe these two things.
Yes, and those things did happen, my first book came in through the back door. It was I didn't realize I was writing my first book when I was writing it. Living in Kingston, and I was the stay-at-home parent, and I was this is like in the early 90s. So I was raising my kids, but I was also writing book reviews for the newspaper, for the Whig Standard, and trying to figure different ways of making money from my writing. And the Kingston Artists Association, which still runs the Modern Fuel Gallery, right? They had a big pile of money for something called the Millennium Project. And you could apply for some of the money. You could explain what your art project was, and it had to be connected with the Little Cataraqui Conservation Area north of town. So I wrote a proposal. I said, my art project is I will write a poem about the last 10,000 years of the Little Cataraqui Conservation Area. And I will read it outdoors in the ruins of the. There's an old barn. There's a foundation of an old barn at the conservation area. So that's my art project. And to my surprise, they gave me the money. And so I wrote the piece, and then I performed it, and I didn't think it would go any further, but the Artists Association printed, a newsletter. You know, they publicized what they were doing, and a sister organization of artists in Fredericton, New Brunswick, had a copy of the Kingston material, and a publisher in New Brunswick, Joe Blades, who. At that time, ran Broken Jaw Press. He saw the notice of what I'd done in Kingston, and he got in touch with me. So I want to see the manuscript. So that's how the first book.
And was it
happened.
About Kingston?
It's about Kingston.
So it was about Kingston, like you were reading about Kingston, like it was also
yeah.
The okay.
Yes. Yeah.
So that's interesting.
Yeah,
it hasn't
I went into
been
the archives.
Published here. Yeah.
I contacted the archaeological associations, like, who would have lived here? When would they have lived here?
Yeah.
You know, on this piece of land. And,
oh, good.
Yeah.
So it was the beginning, and then after that?
I had a couple of friends in Toronto, women who were running Woolsack and Wynne Publishing, They previously in the 1980s, they had published a magazine in Toronto called Portrait Toronto. And I'd had a couple of poems in their magazine. So I kept sending them manuscripts for their book publishing operation. And eventually they accepted one. But I had to cut some and I had to change things. And I published two books with them in 1997 and in 2001. And then they sold the press. And the new owner is a nice person, but I didn't have the same relationship. So, and she was much younger than the previous owners. So I think there's a generation gap there. We didn't quite understand each other. So 2001, I didn't publish another book until 2017. Mm-hmm. So 16-year gap. But I was writing all the time, so.
And you were preparing the book that you published in 2017, more or less.
Yes, and other books too, are still unpublished.
Oh, okay.
But that was the big project was Le Loutre, which I thought would take me 5 years or 7 years, but it was more like 20.
And it's interesting because when we see books and when we read books, we see, you know, publishing dates, but we kind of, I don't think that much about what's happening in between and kind of, you know, so it doesn't match with necessarily with your experience as a writer, like there's, you know, because there are more things going on than when there are silences. Okay, so my next question is actually another question I'll ask you to read from your book. And we'll start by you, Eric, and then we'll just match
okay,
it. So
sure.
Kind of, you know, keep all right. You on your toes. And so you can introduce just a little bit, because this is a book that would need a long introduction.
It's but complicated, yeah. Yes. Le Loutre, not La Loutre, Le Loutre refers to the Abbé Jean-Louis Le Loutre, who was a missionary to the Acadians and to the Mi'kmaq indigenous people in Acadie, in Nova Scotia, in the 1700s. And I tried to write these poems just as a straightforward historical narrative, a sort of documentary poem, and it didn't work. I had to introduce fictional characters because I needed a point of view, right? And Bampisson, peut voir tout le monde, in a certain framework. Anyway, so I made up Thaddeus, who is an orphan from New England who ends up in Nova Scotia. And this is not the first poem in the book, but it's the first poem that I wrote. It's sort of, there's a vision at the heart of it, a sort of auditory vision. Well, that doesn't make sense. You know, the Albinoni Adagio? Okay, I was listening to the Albinoni Adagio, and I had this picture in my head of a man dressed in black walking through the snow. And I knew I had the beginning of the book. When Thaddeus met Le Loutre, brass-buckled shoes stepping through snow and music, slow black strokes of it, stark as the staves and bars of winter trees, a curving melody, the steady crunch of time. The priest's tune was new and strange, an Albinoni Adagio for oboe in truth, but graced that morning by a bone flute, hand-carved by Le Loutre in the Mi'kmaq style, with holes drilled for a European scale, descending tristesse on a March hillside, The sound drew my eye to the black-gowned figure, a condensate of legend and Gothic imagination, wearing the long robes of a French missionary, who walked alone in early morning light. The music stopped. I heard the priest mutter in an unfamiliar tongue, perhaps prayers in Latin or Breton or Mi'kmaq. Somewhere moving counterpoint, the water formed a trickle of snowmelt, a rumor concerning the Pascal son's energetic burrowing. He looked up and I glimpsed the priest's handsome face, but I looked away and acted nonchalant. He was the Abbé Jean-Louis Le Loutre, orphaned as a child himself, they say, a boy from a paper-making family in Morlaix, schooled in Paris by the Spiritan order, a precocious Breton boy who became a missionary for the Séminaire des Missions Étrangères. Bonjour, I called out, believing he would see me. C'est bon le soleil ce matin, displaying my meager morsels of French. Le Loutre just walked deeper into the woods, but he must have noticed me. In the broader world of which I was ignorant, the British kept a keen eye on Le Loutre as pulpit rhetoric drifted north from Boston, punctuated by militia boots and always the martial suspicions of New England. Le Loutre's own voice warned of injustice, but got scant attention, being overpowered by the self-regarding rattle of fife and drum. Le Loutre was simply their furious enemy, to be vanquished by fire, Bible, and sword. How much better the dignified adagio of Albinoni, the ceremonial rage on a sea of grief. How fine the lifting and falling precision. Nostalgia for everyone's lost honor in G minor. And heaven defend me, I still love the tune.
Mm. Thanks so much. Okay. So, another work now from Bianca and in French. So it's interesting because it's like of music. You know, having from English to French, it's actually quite interesting. Okay, Bianca, so what are you going to read us?
Alors, je vais vous lire un mandala dans une benne à ordures. C'est un peu comme une longue lettre à un écureuil mort. Alors, c'est un petit peu une façon, un prétexte d'interroger notre rapport aux humains, hein, mais à travers les yeux d'un écureuil. Et c'est vraiment une image qui m'est venue. J'étais en séjour dans ma propre ville, dans un gîte du passant, et les propriétaires du gîte ont attiré mon attention sur un écureuil mort électrocuté sur un fil électrique. Alors, ça a été le déclencheur. Alors, voilà. Les cases. La première question d'un sondage d'envergure nationale concerne la rage. Quel animal s'avère le plus susceptible de la transmettre? Le raton laveur, la chauve-souris, le furet ou ta propre espèce, l'écureuil gris? À la mine, j'ajoute une case pour l'humain. Enfant, je savais la mort possible, la croyais simplement plus accueillante, pressentais le ciel sans le ciel, la maison sans son feu, la mort sans la mort, je ne pouvais l'imaginer. L'arbre aux bonbons. Dans le ciel de mon enfance trônait l'arbre aux bonbons. Canne à sucre et jujube enchantaient mes rêves, apaisaient les moments d'aigreur. Du miel pour l'amertume. Autant l'avouer, je voudrais être écolière à nouveau. Jupe écossaise et lacets détachés, maculée par la route. Toi, aimerais-tu redevenir bébé écureuil, le pelage ras? Aurais-tu rangé cette lubie avec les illusions dangereuses? D'une accolade, ta mère te console. De ta peine, elle fait un cadeau qu'elle devine sans briser l'emballage, tes yeux en guise de ruban. Mouvement du monde. L'un des tiens se dirige vers nous, ne démontre aucune crainte. C'est nous qui affûtons notre regard. Il s'en prendra à nos victuailles. Nous mettons en scène notre propre avidité. À l'instant du bond initial, tes pattes avant frôlent l'air sans toucher l'écorce, éprouvant ton équilibre. Quelqu'un t'a sûrement déjà dit, Icare, suspend ton vol, le mouvement, personne ne peut te le voler. T'es bon, si gracieux, le jour baisse, tes couleurs fondent, désertent les yeux, des coraux glacés. Je redoute le décompte des départs, les préparatifs autant que les au revoir, mais j'adore partir. M'élancer sans rien apporter. Je ne suis pas comme toi. Le cœur n'est pas ma demeure. Mes bajoux se creusent en insomnie. Les baumes. Tu n'accueilles pas tes prédécesseurs de la même façon que tes protégés. Vos griffes refusent de s'entrelacer. Tu signes autrement ta déférence. Si le baume de sapin cicatrise mieux que la gomme de pin, quelle écorce guérit les escarres? Parfois, on en serre une roche en pensant que la noirceur la protégera. Quel silence viens-tu d'enfuir sans l'avoir scruté à la lumière du jour? Sous la pierre, la moisissure s'est déjà infiltrée. Alors on ouvre la terre et on trouve un secret lisse comme une joie d'enfant. Gitan sans royaume. Tu n'es pas au rendez-vous. À la radio, un journaliste a évoqué les espèces en voie de disparition, aucune en voie d'apparition. On souhaite vous égarer à l'arrière des forêts, toi et tes congénères, des novas en mal d'orbite. Il y a toujours quelqu'un pour nous vouloir ailleurs, dans un sentier sec, sans tapis de feuilles. Les écureuils réincarnent peut-être des gitans évincés de leur voyage, soustraits d'un continent peau de chagrin. Cette nuit, j'ai rêvé d'un feuillage au pourtour jaunâtre, mais le cœur était vert forêt, préservé. J'ignorais qu'on possédait une âme de rechange. Oui. Vitraux. Pénètres-tu quelquefois dans une église, non pour te réchauffer, mais pour te rafraîchir? Les vitraux aux arcs-en-ciel ébréchés apaisent la soif des infidèles. Chacun plonge son regard en lui-même, nouveau bénitier. Ne te reproche rien lorsque monte l'envie de bercer la nuit. Dessaye-moi les yeux, je ne vois plus la beauté, le feu des émorocailles, les sourcils froissés d'un chat, les arbres qui s'étirent avec la grâce d'être en vie, de savoir le monde là. Montre-moi le juste et beau. Je me trompais toujours aux leçons de catéchisme. Ceci est juste et bon, cela ne vous rentre pas dans le crâne. Si le beau est superflu, alors le juste aussi.
C'est une belle fin. Merci beaucoup. Désolée d'avoir à couper un petit peu. Oh, j'ai vu qu'il y avait d'autres, mais on peut, s'il reste à la fin, il reste du temps, on pourra continuer la lecture. Alors, on va maintenant, il y a toujours une question qui, moi, me fascine, mais c'est vrai que je suis un professeur de littérature, mais je pense que si vous êtes ici, vous êtes aussi fasciné par ce que les écrivains ont à dire de leur processus de création aussi. Comment ils écrivent, c'est toujours fascinant pour moi. Donc, la question, je vais commencer par... I'll start by you, Eric. See if you can talk about how you write and what is your process, where you write and
certain period of time, or anything interesting you want to say about the way you're writing and rewriting possibly, and yes.
Well, I've been writing for a long time, so it has changed. I also had a manual typewriter, and then when computers came, I got a computer. When my children were small, and the amount of time that I had to write was broken up, I started writing. People call them ghazals. It's a two-line form, sort of a couplet, and then another couplet, and then another couplet, and it's borrowed from, you know, Persian and Farsi and Hindu. In English, we've changed them so much that I call them anti-ghazals. But I found I could sit beside the kids watching television, and then when the ads come on, I can write two lines. And I kept a little stenographer's notebook beside me, so I could, like, oh, I have an idea, and then write two lines, and then, yes, what do you... And they got older, and I could write longer pieces. So nowadays I have instead of a stenographer's notebook, I have a moleskin, and I carry that around with me almost all the time. And when I'm ready to take the notes into something that looks like a poem, I'll get out my yellow tablet, and I'll sit in a cafe or at my kitchen table, and I'll draft a poem. And I'll write maybe 6 drafts, 7 drafts, 8 drafts, and then I'll type it, and then I'll take the Typescape, and I will edit it, and then I'll go back to the yellow paper, and then I'll type it, and then I'll go back. So there's usually a dozen drafts or 20, and then they collect in piles, and you send them off to a publisher.
So for each poem, I guess you're kind of having one poem and then you write another one. It's kind of random. Where are you going back to one, or you kind of write until you're finished with some pieces, or it's kind of
Sometimes you discover there's mm-hmm. a pattern, and you go, I'm writing a lot about growing up. Mm-hmm. I'm writing about the house that I lived in when I was a child. Like, there's a whole set of poems like that now. I should add to them. Other times, it's an idea. You know, mm-hmm. what if I? You know, so you write to fit the concept.
And would you say that when you started to write on computer, you're still writing by hand? Like, it didn't change your way of writing when you started to use a computer?
It did at first.
Okay.
For a while, yeah. The early drafts of Le Loutre, I did them right onto the computer.
Okay.
And after years of that, I didn't like it. I didn't like how it was coming out. I didn't feel sufficiently alive.
So you went back to writing on paper?
Yes.
Interesting.
Yeah, I think there's something, I don't know.
Physical?
Yeah, it's physical. I feel like the body is more connected.
Yeah.
And it's just my perception. But I think it's easier to get joy and grief and everything onto the paper if you're very close to the paper. It's all mediated yeah. by something, but the fewer layers,
yeah.
right, that you have mm-hmm. to go through, mm-hmm. I think the better.
Okay, so I'm sure there will be questions about that. Could be questions about that. So we'll leave that to the audience at the end. Thank you. So we'll ask Bianca. Alors, Bianca, je sais que tu as apporté aussi pour nous montrer un peu comment tu travailles. Donc, on va te poser la même question aussi. Quel est le processus de création? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça?
Ce qu'il y a de commun avec, je dirais, pour les au moins 3 livres. Je vais parler d'abord de La Chienne d'amour parce que c'est un peu à part. C'était mon premier livre. Les mots étaient vraiment des déclencheurs. Et aussi, il y avait un seul personnage, mais chaque chapitre était un aspect de cette femme-là. Donc, il y avait l'amante, l'enfant, la jumelle, la folle. C'était vraiment... J'ai commencé à écrire des fragments et à faire beaucoup de copier-coller. Après, j'ai disséminé, si on veut, les fragments dans les différents chapitres qui constituaient un peu les thématiques. Et ensuite, ben, j'ai coupé de moitié et finalement, ça a donné ce que ça a donné. Pour la chère Hugo, chère Catherine, je suis vraiment partie de Ville. C'est-à-dire que c'est un roman qui s'échelonne, sur une quarantaine d'années. Et pour chacune des années, il y avait une ville d'ancrage. D'ailleurs, le premier titre, ça s'appelait « Ville d'exil ». Je l'avais soumis... un prix que je ne pourrais plus revendiquer, c'est-à-dire le prix du jeune écrivain francophone. Dans ce temps-là, j'étais jeune. Alors, et j'avais gagné le premier prix avec ça, mais c'était vraiment des villes et plus deux personnages principaux. Et le personnage qui revenait constamment a commencé à 7 ans et a fini à 50 ans. Donc, et ça finit un peu avec... la mort du père qui, lui, avait environ 75 ans au moment de son décès. Donc, c'était vraiment ce déclencheur-là. Mais pour tous mes livres, j'écris surtout le matin. En fait, j'écrivais surtout le matin parce qu'étant donné mon travail, le matin est un peu occupé. Mais disons qu'habituellement, mon processus, c'était vraiment d'écrire le matin. Pour deux de mes livres, Carnet d'une habituée et Faux partage, c'était vraiment aller dans les cafés. Les cafés, les parcs. Et j'apportais toujours, moi aussi, un cahier avec moi. Quand j'ai fait une petite recherche pour ce soir, j'ai découvert que j'avais au moins... 20 cahiers presque vierges qui étaient commencés. Et l'après-midi, je retapais à l'ordinateur. Et après, je relisais le lendemain. Et après, je recommençais. Mais mon processus d'écriture comprend toujours une première version habituellement, quand je me sens assez prête, je le soumets à deux amis écrivains et qui me donnent des commentaires. Là, à partir des commentaires, je retravaille, je resoumets à d'autres amis écrivains et je dirais qu'il y a peut-être 10 ou 12 versions. Et à la fin, ben, ça donne quelque chose. Et pour Faux partage, celui-ci, ce que j'avais fait, parce que le déclencheur, cette fois-là, c'était l'histoire d'une rupture, mais aussi beaucoup les lieux, le musée, la bibliothèque, la librairie, la poissonnerie, etc., etc. Et alors, j'avais pris des images et j'écrivais à côté des images. Donc... évidemment, c'était pas la finalité, mais des fois, c'est des images qui sont tirées de films, comme cette image-là que vous voyez probablement pas très bien, une femme dans une baignoire. Là, c'est un film de Woody Allen. Et il y a une scène dans la baignoire. Mais ça me sert comme vraiment de déclencheur. Et pour Carnet d'une habituée, c'était aussi les lieux qui étaient des déclencheurs. Et j'ajouterai les mouvements. Et pour le dernier, Voilà. Je m'étais fait un petit plan, mais très organique. Comme, alors, ici, vous voyez, au centre, il y a écureuil électrocuté, n'est-ce pas? Et, bon, les cachettes, la nourriture, la famille, le ciel, l'itinéraire, les chutes, etc., etc. Évidemment, tout ça n'a pas tenu, là, hein, on s'entend, mais ça a été, ça m'a beaucoup aidé quand même. Et à la fin, bien, il y a toute l'organisation, parce qu'il y a comme un mode organique, et après, c'est à moi de comprendre comment ça s'enchaîne, comment ça se poursuit. Et c'est des fois, c'est laborieux, et des fois, j'ai besoin d'un œil extérieur aussi, qui va me dire, si tu mets ces deux fragments-là côte à côte, il n'y a pas assez de résonance, mais si tu les mets plus loin, il y a de la résonance.
Voilà, c'est ça. OK, thank you. This is fascinating. I really like hearing how writers are writing, and it also show how long it is in the process. When you read the book, there's a lot of, you know, other versions of the same text, and for you having feedback from other writers, I don't know, Eric, you might do the same thing at times, having readers, or... Not your kind of work.
A little bit.
A little bit. Yeah. So, but
I'll, Bruce Kaufman, where are you? I go to the open mic readings that Bruce organizes once a month, and I'll take the poem that's almost ready, but I want to know how people are going to react to it. So
that's good.
So I So I get the feedback by looking at people's faces.
So I'm looking at the clock, and we would have another 10 minutes because we started at 10 to 7. So that will give us, if I'm so just another 10 minutes, and then we can have questions. So I'm just going to, because I have two more questions, but I think they could be answered quickly. The question I had was about publishing. I think both of you have talked about publishing and all that, but I think what I would like maybe to focus on for a quick answer would be, where are your readers? And kind of, you know, are you talked about Kingston, you talked about Montreal a little bit. So just briefly, both of you, knowing where you're publishing, your kind of publisher, but what are you're reaching out to some readers, possibly. Do you know who they are? And just a little bit about that. So, Bianca, can you start?
Ben, c'est sûr que j'ai majoritairement publié à Montréal. Je dirais que mes lecteurs proviennent principalement du Québec, aussi un peu depuis que je suis à Kingston, un peu de l'Ontario. Français, donc ici à Kingston. C'est sûr que des fois, on ne connaît pas nécessairement nos lecteurs. On peut avoir des critiques dans les journaux. Des fois, on est surpris aussi par les critiques. Un jour, pour Cher Hugo, Cher Catherine, j'avais reçu une vraiment très mauvaise critique, là, mais la plus mauvaise des mauvaises critiques. Et le journaliste disait, cette femme est une obsédée sexuelle. J'ai fait, OK. Bon, je ne savais pas. J'étais vraiment surprise. Donc, des fois, ça, on mesure pas l'impact que, et aussi la vision que les lecteurs peuvent avoir de nous. Ça m'est arrivé parfois de recevoir des lettres par le biais de mon éditeur ou de l'Union des écrivains, de personnes qui me disaient « Ah, j'ai beaucoup aimé votre livre. » Mais il y a beaucoup de lecteurs qu'on ne connaît pas. Et j'ai beaucoup, il faut dire que souvent en poésie, on a beaucoup de lecteurs écrivains. Souvent les écrivains lisent les autres écrivains.
Bonne réponse. I will ask Eric the same question. So do you know, are your reader mostly in Kingston? Do you know where they are and where you're publishing?
Mostly Kingston, yes.
Mostly Kingston?
Yes. And, you know, the writers are the readers. And the readers are the writers. But also, the English-Canadian audience is fragmented. Mm-hmm. So there will be a set of people in British Columbia and a set of people in Nova Scotia, New Brunswick, and they don't read each other, and mm-hmm. neither of them are reading Kingston. We might all be reading Toronto if we feel like it. Okay. But so jumping over those spaces is really difficult, and there's no poetry equivalent of hitting the road and taking your music to every bar in the country. Mm-hmm. You can't do that. They'll throw things at you. So it really comes down to networking. Mm-hmm. You could, up until about 15 or 20 years ago, you could hope for reviews in the major newspapers, and the critics would like you, and then everybody will, oh, well, you know, the critic in the Toronto Star likes this guy, so we should read him. And then you can step outside of your area. But now there are hardly any reviews, so it's very hard to reach out.
So even if you kind of think, okay, it's English, like you can cross, you know, not the borders, but yeah, and at least in Canada, but it's not that true. As in Montreal, you're saying in Quebec, maybe the audience is more, your readers might be not just in Montreal, would you say?
No, effectivement, mes lecteurs vont être en... à Montréal, mais aussi dans le Bas-Saint-Laurent, un peu partout. Souvent, quand il y a une critique dans une revue littéraire, on a des revues de recension comme Lettres québécoises, Nuit blanche. C'est sûr que ça aide un petit peu à la diffusion. Il y a beaucoup d'éditeurs au Québec qui ne croient pas beaucoup... Enfin, mon éditeur, Les Herbes Rouges, ne croyait pas du tout à la publicité. Alors, donc, il y avait très peu de publicité. Mais il y a aussi le fait que dans ce que je publie, il n'y a pas 10 000 lecteurs, là, loin de là. Là. C'est des tirages de 500 exemplaires, 1000 exemplaires. Des fois, comme pour Carnet d'une habituée, je pense que ça a été en réédition. Et là, j'étais, ah, wow, réédition, yes! Mais c'est plutôt rare. Et des fois aussi, on est lu dans les écoles, comme souvent été invité dans des cégeps, ou si un professeur met notre œuvre au programme, ben c'est sûr que ça aide un peu.
Un peu beaucoup.
Un peu beaucoup.
OK. So, merci. I think I'll stop... here, so if there are more questions, because I think the other question, we can't, you answer mostly all the questions, so I think I would like to hear from people. There's lots of things you said that, you know, might bring other questions.
I just wanted to start with a comment. I think you guys were very engaging speakers, and I really like to listen to all of you, and I think you all look very nice tonight.
Thank you.
Okay. Other question or nice comments like that? Okay.
C'est une question pour Bianca. Bianca, ça fait presque 10 ans que tu es maintenant à Kingston. Est-ce que tes thèmes ont changé vu que tu es dans un milieu anglophone?
C'est une bonne question. En fait, j'ai réfléchi un peu à ça, j'ai tendance, quand j'écris, à essayer de me retrouver dans des lieux qui sont un peu comme des refuges. Alors, mon premier lieu de refuge, c'est le café. Et Dieu merci, à Kingston, il y a plusieurs. et il y a de plus en plus de coffee shops, de cafés. Et il y a des parcs. Mais je ne dirais pas que mes préoccupations ou les thèmes ont changé. Peut-être que dans mes poèmes actuels, donc j'ai une œuvre en cours, le rapport à la langue est peut-être plus nommé, sans que jamais le mot français ou anglais ne soit là, mais peut-être peut-être une plus grande affirmation dans l'écriture des poèmes. Mais c'est difficile de dire quelle variable. Est-ce que c'est le fait que je sois maintenant à Kingston et que c'est un milieu qui est anglophone? C'est peut-être un milieu où je me sens plus étrangère. Et ça me permet de nommer cette étrangeté-là. Oui, je pourrais dire ça.
Bonne question. Bonne réponse. Normand, oui,
donc. Ma question est un peu semblable à celle d'Ulrike, mais je peux la poser à Monsieur Eric.
Ouais.
We're talking about two realities, and I know that you have dual citizenship, so
yes.
An American reality, a Canadian reality. You also lived in Montreal, and you're writing about l'Acadie.
Yeah.
So you seem to have many realities.
Beaucoup de réalités, oui.
How do these different realities, do they impact your writing? And maybe for Bianca, in the same way, do you read in English? And does reading in English or literature in English influence your writing?
You want to begin?
Okay. From a very young age, I had to learn to work in different cultural registers. My very Yankee mother died when I was 7. My father remarried, so when I was 8, I had, instead of a Protestant Yankee mother, I had a Lithuanian Catholic mother. Okay, so. And Christmas would be, in the course of one day. I'd be going from one culture to another. So I got used to having, you know, double vision. And coming to Canada was more of that, only more intense. I don't know, I think... I can't articulate it exactly, but I think that's part of my mission, if I could put it that way, to express multiple visions at the same time. Too often we are presented with a very simple worldview. You know, we are good and they are bad, and we have to win and they have to lose, right? But it's, reality is never like that. So, yeah. So that's just what I do.
So it's many realities, we could say. Like it's kind of many realities.
Yes.
One
yeah, not one, not two.
Of
yeah, yeah, yeah.
Oh, Bianca.
Oh, c'est beau. Oui. Je lis peu en anglais. J'avoue que lorsque je lis en anglais, c'est beaucoup des livres de finance. Alors, est-ce que ça influence mon écriture? Peut-être. Parfois des romans policiers. Je lis de temps à autre de la poésie en anglais et des nouvelles. Et la poésie que je lis en anglais, souvent, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une... Pas toujours, mais il y a une simplicité que j'admire et que j'aimerais avoir dans ma propre poésie. Alors, je dirais que peut-être ça influence un peu mes aspirations. Je lis peu de romans en anglais. Ça m'arrive, mais... Je peux lire des nouvelles comme Raymond Carver, Mavis Galant, qui est une auteure canadienne. Mais mea culpa, je ne lis pas beaucoup en anglais.
Moi, j'ai une question à propos de... vous mentionniez que vous aviez de la difficulté à être publié au début et maintenant, il y a beaucoup plus de possibilités avec le web. Est-ce que vous avez exploré la possibilité de publier de vos documents ou vos textes sur le web pour les utiliser comme un incitatif à découvrir vos livres?
Pas vraiment. Je sais que ça se fait, mais je pense que j'ai toujours cherché à avoir ma famille d'écriture dans des maisons d'édition. Donc, quand j'ai trouvé, par exemple, Les Herbes Rouges, je sentais que c'était vraiment ma famille d'écriture. Sur le web, j'aurais peut-être moins un sentiment d'appartenance. Et aussi, je dois dire que je considère que c'est un peu le travail de l'éditeur d'aider à la diffusion. C'est aussi mon travail. Maintenant, on a des outils comme Facebook ou... puis j'admire, j'ai beaucoup d'amis écrivains qui vont recommander leurs livres et qui vont faire beaucoup de publicité sur leurs livres. Puis là, je fais « Oh, wow! » Moi, j'ai réussi à mettre « Venez ce soir », là, tu sais, c'est déjà bon. Mais je suis pas très portée à faire ça. Non, je recours pas beaucoup au web. Mais l'Union des écrivains a, qui est une association au Québec, a un site web. Et là, il y a des liens. Bon, c'est une forme de diffusion. Mais je ne dis pas que c'est mauvais. Ça peut être une très bonne occasion pour quelqu'un là, qui veut, surtout peut-être pour un auteur qui commence. Là. Ça peut être une bonne chose.
En anglais? OK. I wish Marshall McLuhan were alive right now so he could look at this internet and say, here's what the web does to our perceptions and to how we work. I know it's doing something, but I don't know what. It's another medium. And I think if you're going to write poetry and then put it online, I think you have to write poetry for that, for online. It's like, I can't just take my book and make a film of it. I have to write a film script. And I think you need to write for the web if you're going to be on the web. It's its own medium.
Bianca, je veux savoir si vous, de temps à autre, vous considérez la possibilité de composer en anglais, mettons, and Eric, same thing. Do you at times consider the possibility of composing or writing poetry or et cetera in French?
Je pense que si je le faisais, je le ferais vraiment comme un exercice de liberté. Et un exercice de liberté dans le sens que parfois il y a des barrières qui tombent. Et ça permet de découvrir une nouvelle facette de l'écriture. Mais ma maîtrise de l'anglais étant ce qu'il est, c'est-à-dire déficiente, je retraduirais en français. Ça, c'est sûr, parce que je ne pourrais jamais prétendre écrire en anglais. Là, ça serait vraiment comme un exercice de liberté pour dire « OK, je vais écrire un poème en anglais ». Et je vais voir où ça m'amène. Et peut-être qu'il y a deux lignes que je vais garder de ça et que je vais traduire et qui vont m'amener à faire un autre poème en français. Je dirais ça, oui.
In the last two years, I've been reading a lot of Jean Cocteau. Some of his poems I'm finding difficult, and in order to, I've been translating Jean Cocteau because it's the Only way I can figure out what's going on inside of the poem. I can't do that in French. It's so, you know, it's the vocabulary, the grammar, but also the gymnastics that's happening inside the poem. A great poet like Cocteau is like, he's doing little somersaults in the middle of the poem. He's so comfortable that he's just, you know, he's walking the tightrope to get from the beginning of the poem to the end of the poem, but then he's doing tricks along the way. It's like, I can't do that.
I'm just going to see some very interesting parallels here, because you're saying you could use English for your own writing, and you're saying your reading, also reading is something that will nourish you as yes, like reading in French. So it's interesting how both of you are actually using the other language. I have to say that was my last question I didn't ask, so that's great that it's coming from the audience. So I think we have one more. I think, do you want to talk? Yeah, I'm going to give you.
Merci. Oui. Going to start in English and morph into French. Eric, you said you couldn't do poetry in the bars, but I was just wondering if either one of you has ever been interested or seduced by the new forms like slam and rap. Avez-vous déjà été tenté d'essayer de rapper Bianca? Ou de le faire en public.
J'ai jamais essayé de rapper, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup, surtout dans ma vingtaine, dans ma trentaine. Là, c'est beaucoup de lectures publiques et beaucoup de lectures publiques dans des bars aussi. C'est intéressant parce qu'il faut vraiment parler par-dessus les gens ou parce que évidemment dans un bar on a un grand concurrent qui est la bière hein, et les conversations qu'amène la bière on a un auditoire qui est parfois très intéressé et d'autres qui sont il y a d'autres éléments dans d'autres salles du bar qui le sont beaucoup moins Je dirais que ce qui se rapproche le plus du slam, je ferai jamais de slam, là, c'est sûr, pour moi, je me vois pas faire du slam, mais c'est peut-être la scansion du poème. Et les gens qui font du slam, souvent, le slam peut être très intéressant en soi, mais c'est un petit peu comme Eric le disait, c'est-à-dire que c'est un médium à part entière. On lit après un poème écrit, un poème dit en slam, ça n'a pas du tout le même effet sur papier. Et je pense que je suis trop intéressée à laisser des traces écrites. Je dirais ça.
Yeah, well, I agree with Bianca. And I like hearing slam, and I like those kinds of events. I used to write more like that, you know, just sort of turn the emotions up to 10, and then just sort of blast them at the audience. And it's, you know, but it's not what I want to do now. I want to sit there with my cup of coffee and have a chat with you. I don't want to blast you with my feelings anymore.
I think it's a good way to finish and end this talk with some laughter. That's good. Merci beaucoup. Merci à Bianca. Thank you to Eric. Thank you. Merci à tout le monde. C'était vraiment un dialogue très enrichissant pour moi aussi et je suppose pour tout le monde. OK? Bonne fin de soirée.
Thank you for listening to One City, Two Realities, Une Ville, Deux Réalités, brought to you by ACFOMI, l'Association canadienne-française de l'Ontario, Conseil régional des Mille-Îles, and produced by Titan Sound in Kingston. ACFOMI souhaite remercier gracieusement Patrimoine Canada, the Kingston Frontenac Public Library,
nos partenaires médias, nos commanditaires, et nos invités spéciaux. Visit acfomi.ca for the latest information on our podcast series, as well as all the bilingual events happening in the Kingston and Thousand Islands region.